Vous écoutez France Culture.
L'esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, qui est pour moi l'occasion non pas de vous renouveler mes vœux, car je pense que vous en êtes un peu accablés de vœux divers depuis une semaine, mais de vous rappeler que la semaine prochaine, notre émission sera en direct et en public, à Radio France, au studio Charles Trenet, le studio 105 de la maison de radio 12 France, devrais-je dire, en mémoire de Charles Trenet, et que l'entrée est libre et qu'il est simplement souhaité que vous réserviez en envoyant un courriel à comfranceculture.com, tout ça en un seul mot, @radiofrance.com ou par téléphone au 01 56 40 26 78. Vous entrerez par la porte de la rue de Boulainvilliers. Mais en attendant cette émission en direct et en public, nous allons essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Michaela Wiegel de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, avec Thierry Pech, rédacteur en chef de Alternative économique, Max Gallo, romancier et historien, et Jean-Louis Bourlange, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Nous commencerons par nous intéresser à la situation et à la rentrée politique. Après que, lors de la présentation de ses vœux aux Français, Nicolas Sarkozy a déclaré « Le moment venu, vous ferez vos choix, d'ici là, je dois continuer à agir », le Premier ministre François Fillon a annoncé jeudi que le projet de loi détaillant le dispositif d'adoption d'une TVA dite sociale serait soumis au Parlement au mois de février. Il s'agit de remplacer une partie des cotisations sociales assises sur les salaires par une taxe sur la consommation dont les modalités ne seraient arrêtées qu'à l'issue du sommet social du 18 janvier. La question de savoir si le transfert concernera seulement les cotisations patronales ou également celles payées par les salariés, s'il se fera uniquement sur la TVA ou sur un bouquet de taxes et dans quelle proportion, cette question reste à définir. Mardi, invité du journal de France 2, François Hollande qualifiait ce projet de faute et de mystification, déclarant qu'il refusait la méthode et la disposition. Le candidat socialiste qui rencontrera les partenaires sociaux avant le président de la République a réaffirmé son intention de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu avec le même barème. Jérôme Cahuzac, chargé de la fiscalité dans l'équipe de campagne socialiste, a précisé que la fusion se ferait par étapes. Il faut d'abord harmoniser l'assiette des deux impôts, a-t-il expliqué. Vendredi, le président de la République confirmait son intention d'instaurer une taxation sur les transactions financières dans le courant de l'année, sans attendre que tout le monde soit d'accord. Jeudi, il a plaidé pour une redéfinition du métier d'enseignant, dénonçant le décalage entre ce que l'institution leur demande, à travers notamment ces fameux textes statutaires datant de 1950, et la réalité de la société. Il s'est prononcé pour le renforcement de l'autonomie des établissements dès l'école primaire. Il a critiqué la création de 60 000 postes défendus par M. Hollande. Mercredi, le microcosme s'est agité après qu'un article du Parisien assurait que le candidat socialiste avait parlé du président comme d'un sale mec, ce que François Hollande a qualifié de manipulation. Le rapport publié mardi par l'autorité de sûreté nucléaire établit que le parc des centrales ne présente pas de failles mettant en cause son fonctionnement, mais nécessite d'importants travaux, dont EDF a évalué le coût à environ 50 milliards d'euros. Selon l'accord passé avec Europe Écologie Les Verts en novembre, le parti socialiste s'est engagé à mettre en œuvre la fermeture de la centrale de Fessenheim, ainsi qu'à réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité en France. Un rapport de la Cour des comptes sur l'ensemble des coûts de la filière doit paraître fin janvier. À l'occasion du 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc, Nicolas Sarkozy enfin a prononcé vendredi un discours d'hommage à Don Rémy. Le lendemain, c'est Jean-Marie Le Pen et non Marine qui prenaient la parole à Paris, marquant ainsi le retour de Jean-Marie Le Pen dans la campagne de sa fille. Sur cette question, Thierry Pech.
Mais si on met de côté, je dirais, l'écume de ces derniers jours, la petite affaire Salmec, la stratégie de riposte de l'UMP qui ressemble de plus en plus au cœur de l'armée rouge aux plus belles années, qu'est-ce qui reste ? Je crois que ce qu'on voit se dessiner en ce début d'année, c'est quel va être le moment de la présidentielle. On sort d'une crise, on ne sort pas d'une crise. On était dans une crise internationale qui était devenue européenne. Cette crise européenne est devenue nationale. Et c'est ça qui va faire le fond de tableau de la campagne présidentielle. Pour mémoire, nous sommes en récession. Le chômage en novembre a cru de 1,1%, ce qui est considérable, puisque depuis le mois de septembre, ça fait tout de même 90 000 chômeurs de plus de catégorie A. Les fermetures d'usines, largement relayées par les médias, se multiplient. Cifrance, Petroplus... Et la consommation connaît un très sérieux coup de froid. Or, c'est elle qui tirait l'activité en France. Donc, cette campagne va se dérouler sur une toile de fond économique particulièrement sombre et dans un contexte de déprime assez généralisée. Alors, on pourrait bien sûr évoquer tous les sujets que vous avez listés, Philippe Meyer, à l'instant, le nucléaire, l'éducation nationale, etc. Il y en a néanmoins un qui me paraît au-devant de toutes ces discussions, c'est d'ailleurs ce que les vœux du chef de l'État ont souligné, le thème qui risque d'être le thème numéro un de cette campagne, comment se protéger de la crise, avec tout son cortège de sous-thématiques, désindustrialisation, délocalisation, protectionnisme, etc. Et d'ailleurs, toutes les formations politiques font des propositions sur ce point. L'UMP, vous l'avez rappelé, a relancé, parce que ce n'était pas une idée très nouvelle dans les dossiers de l'UMP, l'idée de TVA sociale qualifiée pour l'occasion de TVA anti-délocalisation, j'y reviendrai tout à l'heure. L'EPS parle de juste échange, le Modem donc appelle à acheter français, le Front National fait des propositions protectionnistes, je dirais, pur jus. Bref, tout le monde y va de sa proposition. Alors, quelle est la position de Sarkozy dans tout ça, avant de revenir à cette question de la TVA, sociale? Je dirais que ce qui est nouveau pour Sarkozy, c'est qu'il a un passé. C'est un homme qui avait laissé penser qu'il n'en avait pas en 2007, qui avait réussi à convaincre le pays qu'il était sans héritage, sans passé, sans bilan. Désormais, il a un bilan et ça rend très difficile l'exercice consistant à retrouver de l'élan dans cette campagne. Et il faut donc, pour retrouver de l'élan, montrer qu'on a encore des idées. Alors, pour montrer qu'il a des idées, eh bien, il ressort tout ce à quoi il a renoncé au début de son mandat en 2007. Pour mémoire, il y avait un rapport sur le statut des enseignants qui se trouve... dont les conclusions se trouvent assez près de ce qu'on voit aujourd'hui Sarkozy proposer pour l'avenir, une réforme du statut de l'enseignant. La TVA sociale elle-même avait été rangée aux oubliettes après qu'elle avait fait craindre, je dirais, des pertes très sérieuses aux législatives qui avaient suivi la présidentielle. Et je dirais même la question du partage du temps de travail sur laquelle Nicolas Sarkozy et ses amis avaient tapé si fort revient par la fenêtre sous la forme du chômage partiel. Hein, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure. Donc les historiens du futur qui s'intéresseront aux années 2007-2012 auront de sérieuses difficultés, je le dis en passant, pour expliquer ce qui s'est passé sous la conduite de Nicolas Sarkozy, puisqu'ils devront expliquer que dans le dernier moment de son mandat, il a... détricoter une partie de ce qu'il avait fait au début de son mandat et que dans la dernière ligne droite, il a repris à peu près tout ce à quoi il avait renoncé au début de ce même mandat. Vous voyez, c'est assez complexe. Alors, sur la TVA sociale à proprement parler, je pense qu'il faut en expliquer un peu clairement le mécanisme. Ce n'est pas une affaire simple. Hein. La TVA sociale, l'idée, d'ailleurs qui a été mise en pratique par différents pays européens, dont l'Allemagne en 2007, le Danemark un peu avant et quelques autres, cette TVA sociale, elle consiste à augmenter la TVA pour financer la protection sociale en contrepartie d'une baisse des cotisations sociales pesant sur le travail. Et faisant cela, elle consiste à accorder un avantage comparatif aux entreprises qui produisent en France, puisqu'elles produisent avec des charges moindres que, par hypothèse, les entreprises qui exportent en France, les entreprises étrangères. Donc c'est pour ça que cette TVA sociale est nommée par certains TVA anti-délocalisation. Elle pose néanmoins toute une série de questions. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles elle est si peu populaire dans les sondages qui sont réalisés à ce propos. Première question, cette stratégie finalement d'amélioration de la compétitivité sur les coûts que représente la TVA sociale, elle va concerner assez peu les salariés modestes sur lesquels les cotisations sont déjà très très basses. Donc l'idée que les salariés modestes pourraient retrouver du pouvoir d'achat dans un arbitrage des entreprises entre salaire, consommation, investissement, etc. est assez peu probable. Deuxième problème, cet arbitrage que feront les entreprises entre salaire, consommateur, prix hein, en l'occurrence, ou investissement, il n'est pas gagné du tout. Au MEDEF, on parle de 2/3, 1/3, 1/3 pour les salaires, 2/3 pour le reste. Mais enfin, c'est pas au MEDEF que se prendra la décision, c'est dans chacune des entreprises concernées. Troisième problème, avantage comparatif avec qui ? Avec l'Allemagne qui le fait déjà, avec le Danemark qui le fait déjà, avec les émergents, mais l'écart de compétitivité avec les émergents sur les coûts, il est beaucoup trop grand. Et soit dit en passant, avec l'Allemagne, la comparaison n'est pas très pertinente, puisque le salaire ouvrier en France, le coût du travail ouvrier en France est plus bas qu'en Allemagne aujourd'hui. Donc ce n'est pas tellement la question. Deux derniers points et j'en termine. Et si cette TVA sociale, renchérissant les prix, conduisait les Français à s'intéresser à des produits plus bas de gamme, c'est certainement pas vers des produits français qu'ils se tourneraient alors. Dans le bas de gamme, on trouve beaucoup plus de produits importés que de produits, nationaux. Bon, je vois que le temps presse, donc je ne m'attarde pas davantage. Mais vous voyez, c'est une question sérieuse, parce que le financement de la protection sociale est une question sérieuse, et parce qu'effectivement, les ponctions qui pèsent sur le revenu du travail sont sans doute trop élevé, mais la réponse qui est apportée à cette question sérieuse est loin d'être satisfaisante.
Max Gallo.
Oui, Thierry Pêche se demandait ce que penserait l'historien du futur sur la période 2007-2012. En effet, nous ne savons pas, mais nous savons une chose qu'il a mentionnée en passant, c'est qu'à
nous
partir...
L'historien du présent avec Max.
C'est qu'à partir de... Oui, on le dit des journalistes qui sont les historiens du présent. En tout cas, ce qui est factuellement indiscutable, c'est qu'à partir de 2007, ça a commencé d'ailleurs avant, le monde a été saisi par une crise économico-financière et politique, et qu'on a beau lui donner une dimension nationale, la dimension nationale est réelle, nous en subissons les effets, les chômeurs en subissent les effets, il n'empêche que l'origine de la crise n'est pas l'origine, le cœur de la crise, le cœur nucléaire de la crise, ça n'est pas la politique conduite par Sarkozy de 2007 à 2012. Donc, on peut discuter, par exemple, sur la TVA sociale, je pourrais dire que c'était inscrit par Emmanuel Valls dans son programme et qu'il l'a défendu à la primaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de procès en sorcellerie à faire, puisque, en effet, pour reprendre la fameuse formule de François Mitterrand, contestée par tous ses successeurs, nous avons tout essayé sur le chômage et nous n'avons pas réussi. Formule d'un président de la République qui est célébré aujourd'hui même à Charnac par François Hollande. Non, je crois que ce qui est intéressant dans le moment où nous sommes, ce sont quelques points. C'est d'abord qu'il y a dans les sondages, regardons-les, ils sont passés aujourd'hui, une légère remontée de Nicolas Sarkozy, une très légère faiblesse de François Hollande, 12% pour Bayrou, ce qui a fait dire à certains analystes, avant ces résultats, que peut-être l'élection se jouerait à 4 et non pas à 2, c'est-à-dire Marine Le Pen, François Bayrou, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport précisément avec cette campagne. Alors Sarkozy manifestement a choisi, puisqu'il a un futur, qu'il veut avoir un futur, il a choisi de ne pas rester immobile, et je crois que c'est la bonne stratégie, à savoir je multiplie les annonces sur lesquelles on peut discuter à longtemps, c'est pas social, c'est déjà été fait, c'est dans un rapport de la Cour des comptes, on peut discuter, on voit bien la stratégie, c'est une stratégie de campagne, je suis là, j'agis jusqu'au bout. Évidemment, je suis candidat, ce qui n'étonnera personne. Tout le monde sait bien que le président de la République, quand il est candidat, qu'il s'appelle Sarkozy ou Obama, quand il est candidat à sa réélection, est actif. Ça, c'est le premier point. Ce qui est plus intéressant pour moi, en tout cas, c'est la campagne que je trouve habile et efficace, contrairement à ce qu'on dit, de François Hollande. François Hollande part du principe que l'écart le place presque comme nécessairement élu et que son danger, ça n'est pas de ne pas avoir de programme. Son danger, c'est de ne plus faire seulement entendre une grande musique générale, un chœur de l'armée rouge, dirait Thierry Pêche, en parlant de l'UMP, de faire entendre en effet un chœur de... Un chœur de l'armée rose, général, je vais en donner un exemple, et de ne pas être précis sur son programme. De ce point de vue-là, les analystes ont invoqué, ils ont raison, qu'après tout, le Front populaire a gagné les élections en 1936 sur le thème « Le pain, la paix, la liberté » sans aller au-delà. Puis le mouvement ouvrier, le mouvement social a conduit à un certain nombre de réformes. Mitterrand a choisi un autre système. Mitterrand, c'était les 101 propositions détaillées. Savons bien qu'elles n'ont pas été toutes réalisées et surtout... Et j'y viens.
C'est les Dalmatiens qui sont 101, les propositions.
C'était 110, je crois. Mais alors, c'est peut-être 101 qui ont été réalisés.
C'est les Dalmatiens.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est précisément le rapport que Hollande entretient avec le passé mitterrandien. Tous ceux qui ont écouté et vu François Mitterrand en meeting ont l'impression, quand ils écoutent et voient François Hollande en meeting, qu'il y a là quelqu'un qui est comme un humoriste qui reprendrait, qui essaierait d'imiter celui qu'il veut incarner. Et il le fait avec talent. Je crois que la question qui se pose, et qui se pose probablement aux communicants, c'est de savoir si l'éloquence des années 50, peut-être elle-même influencée par l'éloquence des années 30, est encore efficace aujourd'hui. Nous ne le savons pas. En tout cas, il faut constater une chose, c'est qu'il a peu perdu dans les sondages et que l'écart est toujours important. Ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport qu'il fait entre le grand et son image. Moi, Thierry Pêche n'a pas parlé de ce qui était digne, ce que l'humanité même n'avait jamais fait, c'est-à-dire publier en une de son journal, je pense à Libération, le début de la longue lettre qui occupait cinq ou six pages du journal Libération. Et là, on peut vraiment penser que les socialistes ont dépassé les communistes, car les communistes n'avaient jamais fait une telle impression. En tout cas, c'est vrai.
Bah, Rothschild est quand même beaucoup plus fort que Staline, ça se sait.
L'ancien rédacteur en chef du Matin de Paris, du Matin que
Je n'ai jamais osé faire ce genre de choses qui inquiètent d'ailleurs certains journalistes de Libération, si j'en crois la chronique de Pierre Marcel. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette lettre, c'est le rapport à la réalité. Voici ce que dit François Hollande, et je ne peux qu'être d'accord avec lui. Vous allez voir comment. Pour la première fois depuis longtemps dans notre histoire nationale, ce choix dépassera et de loin les questions politiques et partisanes. Comme en 1981, comme en 1958, il s'agit de redresser la nation. Et les commentateurs ont dit, alors il a quatre méthodes, vérité, volonté, justice, espérance. Quatre mots qui sont précis en termes programmatiques, comme chacun le sait. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que il place, en mettant 1958 et 1981, il se place dans la descendance de François Mitterrand, mais même de De Gaulle. Or, si vous voulez, pour un historien du passé, entre 1958, un putsch, la guerre d'Algérie, une rénovation totale des institutions, la Ve République est née de là, et 1981, il y a quand même une très grande différence. Alors je m'inquiète beaucoup sur la pertinence de la compréhension des mouvements historiques de François Hollande, que j'aime bien par ailleurs.
Michaela Wiegel.
Oui, alors moi j'aurais aimé élargir un petit peu la perspective et parler de l'Europe, ou tout le moins du cœur de l'Europe. Quand on compare cette rentrée politique en France et en Allemagne, on a l'impression que la planète Europe n'est plus la même. En Allemagne, on célèbre un chômage au plus bas, 7,1% de la population active. Jamais autant de gens étaient employés en Allemagne depuis 20 ans. On célèbre une consommation en hausse le dernier trimestre 2011. La consommation, les Allemands n'ont jamais autant consommé.
Ils se rattrapent.
On parle aussi d'une toute autre tonalité de la crise à proprement parler des dettes souveraines, des dettes publiques, c'est-à-dire la chancelière, dans ses voeux, a bien indiqué qu'on avait franchi certes quelques étapes, mais que cette crise allait durer et qu'elle allait être gérée, mais que le dernier sommet n'était certainement pas le sommet de la dernière chance où tout a été décidé. Et pour preuve que l'Allemagne entre dans une perspective complètement différente dans cette année 2012, je voudrais quand même mentionner un sketch qui a beaucoup amusé les Allemands. Bizarrement, les Allemands ont pour habitude chaque 31 de décembre de regarder un vieux sketch britannique qui est tombé dans les oubliettes en Grande-Bretagne, mais qui amuse beaucoup les Allemands. C'est une vieille dame, Miss Sophie, qui fête ses 90 ans, avec un butler qui doit représenter toutes les hôtes de marque, mais qui sont décédées depuis, et donc qui doit boire à la place de ses pauvres morts. Et donc, cette année, grande nouvelle, Miss Sophie est devenue, a repris la tête de Madame Merkel et dans le rôle du butler était Monsieur Sarkozy, qui devait donc boire à Monsieur Cameron, à Monsieur Papandreou, à Monsieur Berlusconi. Monsieur Zapatero, et donc je ne dis pas que c'est de toute finesse, mais ce sketch montre bien qu'on a en quelque sorte l'impression que il y a une sorte d'acceptation ou de réalisme maintenant que les idées allemandes sur l'Union européenne et surtout sur l'euro préfigurent un petit peu l'Europe du futur. Alors, je voudrais dire aussi mon grand étonnement en voyant le président Sarkozy ressortir en quelque sorte dans ce sprint final jusqu'aux élections présidentielles, d'un coup, plein d'idées qui avait pas fait l'unanimité ou pour des raisons de tactique électorale était auquel il avait renoncé. Alors ce procédé est quand même assez étrange. Et en plus, face à la stratégie du grand flou du candidat Hollande, qui a quand même cette lettre qui est apparue dans Libération, non seulement dans sa forme, c'était un retour aux mots très lourds, mais c'était aussi, quand on lisait, David sidéral concernant les mesures concrètes d'un homme politique. C'est-à-dire, il n'y avait aucune mesure qui était mentionnée, rien, que des principes généraux. Un dernier mot sur la TVA sociale. Comme Thierry Pech l'a dit, l'Allemagne, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Alors, tout d'abord, pourquoi TVA sociale? En Allemagne, on n'a jamais utilisé l'additif social. Ça m'étonne beaucoup qu'en France, où on est très conscient du langage, on accepte de toujours prononcer ce mot. En Allemagne, à l'époque, c'était la grande coalition, donc les social-démocrates, ont soutenu cette idée. Il y avait deux grandes questions. L'État et les collectivités territoriales sont trop endettés, qu'est-ce qu'on fait pour réduire, pour désendetter? Et deuxièmement, les charges qui pèsent sur le travail constituent un frein à l'emploi, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation? Alors, on a décidé d'augmenter la TVA, c'était discuté comme ça. Quelle était la position de départ? On était à 16%, on a augmenté la TVA jusqu'à 19%. Quelle est la position de départ de la France aujourd'hui? 19,6%. C'est quand même une très, très grande différence. Alors, on a baissé les charges qui pèsent sur l'assurance chômage de 6,5% à 4,5%. Et pour le reste, toutes les rentrées fiscales grâce à cette augmentation de TVA ont servi au désendettement. Je pense que c'est une idée à méditer.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, sur ce point précis, la Cour avait établi dans son rapport sur la comparaison des prélèvements fiscaux et sociaux en Allemagne et en France que si on appliquait strictement la législation allemande à la TVA française, la TVA rapporterait en France 15 milliards de plus qu'elle ne rapporte aujourd'hui. Donc, Michaela, il ne faut pas se fier aux grands chiffres. Il faut voir que nous avons des tas de taux dérogatoires et que nous avons surtout un service de taux réduit, une assiette de taux réduit beaucoup plus large que l'assiette allemande. Théoriquement, dans le but de rendre la TVA plus redistributrice, mais paradoxalement, du fait notamment de la passation à taux réduit de la TVA sur les cafetiers, limonadiers et restaurateurs, c'est-à-dire sur les restaurateurs pour l'essentiel, qui sont payés des dépenses qui sont acquittées par les CSP+, par les gens plutôt fortunés, eh bien, ce système est un peu moins redistributif en France qu'en Allemagne. Donc, on a à la fois un taux réduit plus large et un effet de redistribution plus petit. Quant au mot TVA sociale, ça veut dire une seule chose, c'est qu'on se sert de la TVA, c'est une pure affectation d'un impôt, on se sert de la TVA pour financer une partie de la protection sociale, en l'occurrence, le risque famille. C'est ça le sens du mot. Bon, alors, sur le fond, moi, ce qui me paraît frappant, c'est Antoine Comte-Sponville fait un livre qui dit, je crois, le sexe ni la mort ne se peuvent regarder en face. Alors avant, il y a eu le soleil, le sexe, la mort. Moi, j'ajoute la rigueur. Le sexe, la mort et le soleil, ni la rigueur ne se peuvent regarder en face. Et effectivement, ce qui est frappant, c'est qu'on a une danse de tous les candidats autour d'une exigence de rigueur qui est effectivement à la fois massive et qui survient au pire moment économique, parce que comme tout le monde doit faire de la rigueur, le coût en sera particulièrement élevé. Comme me disait l'autre jour Jean-Claude Casanova, il n'est pas d'exemple de désendettement qui ne se soit traduit par un arrêt de la croissance. Donc, de toute manière, si on fait du désendettement, on est amené à en subir des conséquences conjoncturelles graves. Donc, la situation est conjoncturellement très difficile et politiquement épouvantable, puisque cette exigence de rigueur, elle tamponne immédiatement l'échéance présidentielle. Alors, face à cela, nous assistons à une danse assez intéressante. Que signifie, dans une bonne logique, parce que toute la politique économique, elle a été fixée dans ses choix fondamentaux entre 1974 et 1976. On a eu l'expérience Chirac et l'expérience Barre. Et on reproduit à intervalles réguliers ces deux formes d'expérience, plus ou moins parfaitement, plus ou moins rigoureusement. Alors, l'expérience Barre, c'est la logique de la situation, c'est l'expérience allemande, c'est la politique de Schröder. Ça consiste à dire, il faut accroître la compétitivité, la productivité, donc la compétitivité des entreprises, en limitant les coûts de production, ce qui implique d'une part une politique salariale stricte, et on voit bien que ce qui distingue la situation en Espagne, par exemple, par rapport à la situation en Allemagne, c'est que les coûts de production ont dérivé en Espagne et ont été contenus, voire réduits en Allemagne, à la suite des plans Schröder, Hartz-Cart, etc. Deuxièmement, on dit qu'il faut valoriser en termes de transfert l'outil de production par rapport aux consommateurs. Alors c'est tout le volet TVA, donc je disais tout à l'heure le chiffre sur l'Allemagne, c'est quand même, l'Allemagne c'est 15 milliards de plus si on applique la législation française, on peut dire ce qu'on veut de la TVA sociale, mais c'est quand même ça le problème, ou alors on fait financer par la CSG, enfin il y a quantité de choses, mais on estime qu'il faut cesser de faire financer un grand nombre de dépenses publiques, principalement des dépenses sociales, par l'activité professionnelle et l'étendre à deux catégories, élargir l'assiette, d'une part au profit des consommateurs, au détriment, en réalité, des consommateurs par rapport aux salariés. Dominique Régnier, que j'aime à citer, parce que quand je viens à cette émission, j'écoute Dominique Régnier en voiture entre la Normandie et ici, et donc je répète ce que dit Dominique Régnier, qui était un garçon sympathique et intelligent. Eh bien, Dominique Régnier rappelait tout à l'heure que les consommateurs, c'est quand même des gens qui sont globalement assez riches. C'est pas simplement les salariés, ce sont aussi les fonctionnaires qui sont en situation plutôt confortable, les retraités. Donc on a des gens qui consomment donc de façon importante. On a cet aspect-là et donc on cherche à valoriser les résultats des entreprises, notamment des entreprises petites et moyennes, pour qu'elles fassent du profit, qu'elles fassent des investissements et qu'elles puissent rompre ce cercle fatal qui nous distingue de l'économie allemande, à savoir que nos PE, nos petites entreprises ne deviennent jamais en France des moyennes entreprises. Et troisièmement, troisième volet d'une politique rigoureuse, on réduit massivement les dépenses publiques. Et là, à nouveau, la Fondapol a sorti un papier intéressant sur le modèle scandinave en montrant que l'arrivée des sociaux-démocrates en 1994 en Suède avait inauguré une politique de réduction massive des dépenses publiques qui était passée de 64% à 53% du PIB et de rééquilibrage extrêmement puissant des dépenses publiques. Alors face à cela, les candidats, ils tournent autour de cela. Alors ils tournent de différentes manières. Alors Sarkozy, silence. Là, je ne suis plus d'accord avec Thierry quand Thierry nous dit il n'a pas fait la politique. C'est pas la même politique. Sarkozy en 2007 fait la politique de Chirac. Il fait une politique de fausse rupture, pas seulement. Je vois bien qu'il fait des transferts sociaux qui sont favorables aux riches. Je vois très bien ça aussi, un mélange de Bush et de Chirac. Mais globalement, son aversion à la rigueur budgétaire, cette confiance dans les conseils que lui donne Henri Guénaud, etc., fait que on mène une politique laxiste, une politique qui accroît les déficits. Et là, maintenant, il est en train de retourner son système, mais il arrive là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles, en sortant des thèmes qui sont extrêmement sulfureux, sans préparation d'artillerie et au pire moment. Hollande, lui, a choisi quelque chose de différent. Il dit non, moi, je ne m'occupe pas des dépenses, j'essaie de ne pas trop les augmenter parce que mon parti veut les augmenter. Et il essaie de concentrer l'ajustement sur une augmentation des recettes fiscales sur les hauts revenus. Comme en réalité, sur les très hauts patrimoines et les très hauts revenus, on ne peut pas aller bien loin parce qu'ils ne sont pas assez nombreux et qu'ils peuvent partir. On va se concentrer sur les cadres supérieurs. Et il est horrifié par cela. Et donc, d'où son discours, qui est extrêmement prudent, extrêmement généraliste et qui a sorti ses propositions de calendrier. Quant à Bayrou, et je termine par là, Philippe, quant à Bayrou, c'est absolument fabuleux parce que là, nous sommes dans le refus absolu du barisme qui est pourtant proclamé dans état d'urgence. Les thèmes que développe François Bayrou, c'est un protectionnisme implicite qui ne va pas jusqu'au bout, mais qui scintille dans l'opinion politique française avec le HT français, un soutien au salaire, il faut développer le salaire, développer la consommation et évidemment rien sur les dépenses. Le pompon étant obtenu par le discours sur la TVA sociale qui est très précisément le transfert des charges des entreprises sur les consommateurs et les contribuables est évoqué comme une priorité dans son livre « État d'urgence » et ça se traduit par une critique tous azimuts de la proposition de Nicolas Sarkozy. Là, on est en plein double langage.
Thierry Pêche.
Oui, quelques points. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on n'aura pas le temps. Quelques points. Jean-Louis Bourlange me fait dire quelque chose que je n'ai pas dit. Ça me donne l'occasion de le préciser. Je n'ai pas dit que Nicolas Sarkozy, dans la première période, avait mené une politique de rigueur. Au contraire, ça me permet également de répondre à Max. Et j'aimerais bien que sur ce point, on se mette d'accord, parce que sinon, on va le répéter d'émission en émission. Est-ce que la crise est imputable au sarkozysme ? Évidemment, non. En même temps, quand on regarde le déficit de près, d'après ce que dit la Cour des comptes, il y a un tiers du déficit qui est lié à la crise. Le reste, c'est lié à une politique qui est effectivement une politique qui n'a pas été une politique de maîtrise des dépenses publiques. Sur le point qu'évoquait Jean-Louis en citant Dominique Reynier, qu'il écoute donc entre Rouen et Paris régulièrement, les retraités, les fonctionnaires sont riches, il faut le dire vite. Je suis désolé, mais regardez l'évolution du revenu moyen des retraités, regardez la distribution de ce revenu. Il y a beaucoup de retraités aujourd'hui qui sont de moins en moins riches. Et d'autre part, si on faisait la TVA sociale, il y a au moins trois catégories de personnes pour lesquelles il n'y aurait pas, mais absolument pas, aucune possibilité d'augmentation du revenu, contrairement à ce qui se passe dans le privé, si les entreprises arbitrent en faveur du salaire plutôt qu'en faveur de l'investissement ou du consommateur à travers les prix. C'est effectivement les retraités, les fonctionnaires et les chômeurs. ces trois catégories-là ne tireront alors effectivement aucun bénéfice. Et un dernier point, très très rapidement, Philippe. Effectivement, l'élection 2012 ne sera pas l'élection 2007, ce sera une élection de renouvellement. La question sera, voulez-vous ou non renouveler Nicolas Sarkozy ? Ce sera la première question. Comme aux États-Unis, à chaque fois qu'un président sortant se représente, eh bien c'est ça la question. Et une fois qu'on aura répondu à cette question-là, on se posera la question de savoir qui lui est substituable. Et dans une élection de renouvellement, le challenger n'a peut-être pas toujours intérêt à faire des propositions très précises. Et là-dessus, je peux rejoindre Max.
Oui, merci. Je pense que le reste du monde continue à tourner pendant notre élection présidentielle. Il est temps de s'intéresser à la Syrie et à l'Iran, puisque mercredi, les observateurs de la Ligue arabe poursuivaient en Syrie leur mission par des visites à Homs et à Rama, deux centres névralgiques de la contestation. Cette mission est un des éléments d'un plan de sortie de crise élaboré par la Ligue arabe, après qu'une tentative de résolution à l'ONU a fait long feu devant l'opposition de la Chine et de la Russie. Ce plan envisage l'arrêt des violences, la libération des détenus, le retrait de l'armée des villes, ainsi que la libre circulation dans le pays pour les observateurs arabes et pour la presse. Jeudi, l'agence officielle Sana a annoncé la libération de 552 détenus impliqués dans le soulèvement populaire mais n'ayant pas de sang sur les mains. L'ONU estime que des milliers de personnes ont été arrêtées depuis le début des soulèvements populaires à la mi-mars et que la répression a fait plus de 5000 morts. Depuis la Turquie, le chef de l'armée syrienne libre, Riyad Assad, a exhorté jeudi la Ligue arabe à retirer ses observateurs et à proclamer l'échec de leur mission afin de pouvoir en appeler à l'ONU. Les deux grandes factions de l'opposition syrienne, le Conseil national syrien majoritaire et le Comité national pour le changement démocratique, peinent à formaliser un accord politique, achoppant notamment sur la question de l'intervention étrangère. La création d'une zone tampon sur le territoire syrien est néanmoins revendiquée par le Conseil national syrien. La posture à adopter face à cette armée syrienne libre, dont sont redoutés tant le caractère militaire que la présumée inféodation à la Turquie, est aussi sujet à débat. Vendredi, une explosion a touché le quartier de Maïdan, dans le centre de Damas, faisant 26 tués et 63 blessés. La télévision publique syrienne a attribué les faits à des terroristes, l'opposition dénonçant une provocation. Courant novembre était rendu public un rapport de l'AIEA exprimant de sérieuses inquiétudes quant à une possible dimension militaire du programme nucléaire iranien. Le lendemain, le président Mahmoud Ahmadinejad affirmait que son pays ne reculerait pas d'un iota sur son programme nucléaire. Dimanche dernier, la République islamique a franchi une nouvelle étape dans sa diplomatie et sa rhétorique de guerre froide face à l'Occident, en affirmant avoir testé avec succès des barres de combustible produites en Iran, destinées à être utilisées sur ses sites nucléaires. Dans le même temps, étaient testés des missiles de moyenne et courte portée dans le détroit d'Ormuz. États-Unis et Union européenne ont approuvé l'idée d'une nouvelle série de sanctions contre l'Iran, principalement économiques, afin d'obtenir que Téhéran cesse son programme d'enrichissement d'uranium. En réponse, l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz, goulet d'étranglement stratégique dans les échanges pétroliers mondiaux, si ses exportations de pétrole devaient être visées. Les États-Unis, dont la cinquième flotte mouille à Bahreïn, ont assuré qu'ils maintiendraient le détroit ouvert. Sur cette question, Michaela Wiegel.
Oui, alors qu'on n'a pas cessé de démontrer les différents allers-retours dans et le manque de cohérence dans la politique économique de Nicolas Sarkozy, je pense qu'il faut saluer le tournant pris par la diplomatie française depuis l'arrivée d'Alain Juppé aux affaires concernant le dossier syrien. Je rappelle la première période de la présidence Sarkozy où on a cru bon de trouver un Assad, un allié de préférence dans la région, avec pour comble cette invitation faite au président Assad d'assister en note d'honneur à la parade militaire lors du 14 juillet. On en est loin là, et c'est vraiment grâce à la cohérence et à la perspicacité, je pense, d'un diplomate chevronné comme Alain Juppé qui a mis la France à nouveau en première ligne concernant le dossier syrien. Et ça a d'autant plus de mérite que grand nombre d'autres pays européens étaient un peu échaudés après l'expérience libyenne de s'engager avec force verbale pour l'instant sur ce dossier. Alors, concernant la stratégie de la France, qui est soutenue donc par ses principaux partenaires, notamment l'Allemagne, c'est d'essayer réellement, en impliquant fortement d'autres acteurs, d'exercer une force de répression sur, enfin une force qui fait cesser la répression terrible en Syrie. On voit bien que le cri qui émane de l'opposition syrienne elle-même pour avoir une sorte de zone de protection qui ressemble fortement quand même à ce qu'on discutait sur la Libye d'une non-fly zone est quelque chose que pour l'instant l'Union européenne n'ose pas envisager, puisque cela impliquera forcément un engagement militaire dont personne ne veut. Et on peut constater aussi que les États-Unis, qui déjà se sont avérés un partenaire, d'une inhabituelle retenue sur le dossier libyen, aujourd'hui ont très clairement exclu une démarche proprement militaire, et ça ne va pas s'améliorer pendant l'année électorale qui s'annonce. Alors, sur le dossier iranien, il n'y a pas eu de tournant. Le président Sarkozy, très tôt, s'est positionné très clairement et était toujours à la pointe pour les sanctions les plus dures. Et il a, en quelque sorte, su convaincre l'Allemagne d'aller de l'avant. On verra si cette division européenne, qui aujourd'hui émane notamment de l'Italie et de la Grèce, grand client du pétrole iranien, si cette division européenne va pouvoir être remontée, parce qu'il est prévu que le 30 janvier soit voté un embargo pétrolier qui devrait faire mal au régime iranien qui s'enrichit énormément de ses exportations pétrolières. Sur le dossier iranien, il faut dire aussi on est très dépendant des hésitations américaines. Pendant la période électorale qui s'annonce aux États-Unis, il est très probable qu'il n'y a pas que tout est essayé pour, en quelque sorte, ne pas avoir une escalation qui pourrait amener des conséquences plus graves.
Max Gallo. Trois remarques préalables. Premièrement, la répression, la violence de la répression en Syrie comme en Iran, lions les deux dès le départ, est indiscutable. Cependant, je crois que nous ne connaissons pas dans le détail, non pas les questions de répression, mais le rapport des forces dans ces deux pays, à savoir nous manquons réellement d'un déficit d'information, et ce qui se passe dans les conséquences du printemps arabe, où nos prévisionnistes politiques se sont trompés sur l'importance du salafisme ou des frères musulmans, doit nous conduire à une réflexion mesurée parce que nos informations sont faibles. La deuxième chose, c'est que nous sommes, comme l'a dit Michaela, dans une année électorale américaine, ce qui a des aspects positifs ou négatifs, mais en tout cas qui pèse. Troisièmement, il y a aussi une élection législative en Iran en 2012, ce qui veut dire que là aussi nous sommes dans l'incertitude. Maintenant, essayons de dépasser ce qu'a dit Michaela Weigel et que j'approuve sur la politique française pour voir que véritablement ce qui se joue là est une partie extrêmement importante. Parce qu'il y a évidemment le rapport de la Syrie avec l'Europe ou avec les États-Unis et de l'Iran avec l'Europe et les États-Unis, mais il y a aussi le rapport de la Syrie et de l'Iran avec les pays arabes, les uns Syrie, Iran, pouvant être qualifiés de chiites, les autres appartenant, l'Arabie Saoudite et le Qatar, au monde sunnite. Et derrière cette opposition ou cette divergence, il y a évidemment la volonté de la part de l'Arabie et du Qatar, qui ont des moyens financiers et diplomatiques tout à fait importants, de casser l'axe chiite qui s'est réalisé et qui est qui part de l'Iran, c'est la question centrale, qui s'ouvre sur la Syrie. Et avec la Syrie, nous touchons à la question du Liban, c'est-à-dire du Hezbollah. Et comme il y a derrière la question palestinienne, nous touchons aussi le Hamas. C'est donc vraiment un enjeu tout à fait capital. Et la question qui se pose, c'est de savoir si une intervention militaire préventive sur le cœur nucléaire de l'Iran est possible ou pas. Or, ce qui est inquiétant, c'est que cette idée, qui était tout à fait repoussée dans le plus obscur des secrets d'État, elle est désormais discutée ouvertement en Israël. Et que les États-Unis n'y renoncent pas. On est donc là devant une situation que je crois très grave pour l'année 2012.
Thierry Pêche.
Écoutez, moi, c'est des dossiers dont je ne suis absolument pas spécialiste, mais il y a un point qui ressort à mes yeux de manière tout à fait éclatante, c'est la durée du processus révolutionnaire syrien. D'ailleurs, processus révolutionnaire n'est peut-être pas l'expression, mais il suffit de compter les morts pour mesurer l'étendue de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Je crois qu'on est, d'après les estimations qui valent ce qu'elles valent, mais entre 4000 et 5000 morts depuis le début des premiers soulèvements. On est vraiment face à une situation bloquée avec une mafia au pouvoir, mais qui agit dos au mur, qui n'a pas d'échappatoire, qui n'a pas voulu entrer dans un processus de discussion et de dialogue, et une population qui est divisée sur des lignes ethniques, c'est vrai, mais divisée aussi sur des lignes d'intérêt, qui sont tout à fait dures. Alors, comment on peut sortir de là ? L'expédition de la Ligue arabe est vraiment pas convaincante. Elle est conduite, il faut quand même le rappeler, par quelqu'un qui est poursuivi par la Cour pénale internationale pour le rôle qu'il a eu dans la guerre du Darfour, ce qui quand même ne conduit pas à crédibiliser beaucoup l'opération. Il y a derrière tout ça quand même...
C'est un spécialiste.
Oui, un spécialiste, mais du mauvais côté. Il y a un côté village Potemkin dans tout ça. Et là, je trouve que la position française, comme le disait Michaela, est à la fois courageuse et malheureusement vouée probablement à un échec. La position française consiste à dire qu'il faut donner plus de pouvoir à la mission de la Ligue arabe, etc. Mais enfin, en réalité, on voit bien ce qu'il en est. Je veux dire, cette mission n'a pas beaucoup de pouvoir, n'a pas beaucoup de regard, et elle est conduite par quelqu'un qui, en plus, peut-être ne veut pas voir. Bon, dernier point, comment accélérer un processus de transition aujourd'hui en Syrie ? Le scénario d'une intervention militaire est assez inenvisageable, en tout cas une intervention directe. Il y a le scénario d'une intervention indirecte en armant les officiers libres, à la fois qui sont positionnés aujourd'hui sur la frontière turco-syrienne et en Syrie. Mais là, on noie le problème dans un bain de sang. Donc il reste un dernier scénario que j'avais déjà évoqué à ce micro, qui est un scénario à la Birmane, où tout ça se fige sous un régime absolument dictatorial et autoritaire, avec la complicité d'un voisin puissant qui est l'Iran, en l'occurrence. Mais puissant pour combien de temps ? Et là, c'est le débat qu'on vient d'avoir sur l'Iran.
Jean-Louis Bourlange.
Moi, je partage tout à fait la qualité de non-spécialiste des questions dont on parle avec Thierry.
Je croyais que c'était de la répression.
Moi, je fais ce que je peux. Alors, donc, je lis les journaux et j'écoute ce que disent les gens. Et je ne suis pas beaucoup plus avancé pour ça. Mais, enfin, sauf ici, bien sûr, où mon niveau de connaissance s'élève en écoutant nos amis. Mais sur la Syrie, moi, il me semble que c'est une situation qui est effectivement extrêmement grave, parce que ce n'est pas une situation où on a simplement la révolution d'un peuple contre une camarilla, une mafia qui le tiendrait en tutelle, mais on a l'affrontement d'une majorité qui est exclue du pouvoir contre des minorités très minoritaires qui occupent le pouvoir. Et quand on est dans une situation de cet ordre, on ne voit pas que ça puisse aller ailleurs qu'à un affrontement sans merci, parce que de toute manière, il n'y a pas d'avenir pour les alaouites s'ils perdent, si les sunnites prennent le contrôle de l'affaire. Donc il y a une lutte qui est extrêmement, extrêmement difficile. Et de ce point de vue-là, la diplomatie française et ses bons sentiments, c'est très bien, mais on ne voit pas très bien sur quoi ça peut déboucher concrètement. Sur le plan iranien, je crois effectivement que la situation a atteint un niveau de contradiction très élevé. On a d'une part l'agence de Vienne qui nous dit pour la première fois qu'effectivement les Iraniens vont se doter de l'armement nucléaire, que c'est quelque chose de très rapide, dans quelques mois, dans quelques années au plus. Donc, à force de dire « il ne faut pas qu'ils fassent maintenant », on est vraiment confronté à une exigence « on y va ou on n'y va pas ». Donc c'est quelque chose de très tendu. Deuxièmement, il y a une situation intérieure très tendue en Iran, entre les clans, le président, le premier ministre, et puis sur fond de révolte du printemps arabe, sur fond d'élections volées en Iran, qui fait que là, on a vraiment une majorité de gens qui sans doute voudraient un autre pouvoir que celui dont ils disposent. On a, troisièmement, une situation électorale américaine et israélienne, d'ailleurs, une situation politique israélienne qui fait que des dirigeants comme Netanyahou, pas les militaires israéliens, mais le Premier ministre et effectivement des candidats républicains ont intérêt à hisser les couleurs et à afficher des positions belliqueuses. Et enfin, on a pour la première fois, me semble-t-il, un processus de mise à feu, si je puis dire, de la région, qui est d'une autre nature. L'incertitude sur le progrès des chiismes en Irak, recul du chiisme en Syrie, avec à la clé le problème du Hamas et du Hezbollah. Et on a donc, j'y reviens, on a un processus de mise à feu potentiel, puisque on voit bien maintenant que ce qui manquait jusqu'à présent, au Chabon, on disait, est-ce qu'on envoie l'aviation israélienne, américaine, américano-israélienne, faire des frappes pour détruire la force nucléaire potentielle de l'Iran? Et à ce moment-là, les militaires disent « Oh là là, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement difficile ». Les Israéliens ont fait des calculs et ont estimé que c'était extrêmement risqué. Ils ont déjà eu beaucoup de difficultés avec le Liban. Ils ont tout à fait peur d'y aller. Donc on avait une sorte de protection. Mais à travers la menace d'embargo pétrolier, les réactions possibles sur le détroit, la fermeture du détroit d'Ormuz, on a des mécanismes d'escalade vers un affrontement qui sont là peut-être extrêmement difficiles à contrôler. Nous avons vu ce qu'en juillet 1914, des mécanismes d'escalade conduisaient des peuples civilisés comme les peuples européens. Eh bien là, on voit que nous avons quelque chose qui peut très bien échapper. Alors, je suis effectivement, je crois que jamais on a toutes les raisons d'être particulièrement inquiet, mais en même temps, ce serait une telle déflagration, un enjeu tellement négatif pour les Iraniens d'abord, pour l'ensemble de la région, pour l'Occident, pour tout le monde, que j'espère que le bon sens l'emportera et qu'on va y regarder à deux fois avant de mettre le Moyen-Orient à feu et à sang.
Max Gallo. Oui, une petite remarque, nous n'avons pas parlé de la Turquie, qui a changé ses rapports avec Israël, on le sait, qui a changé ses rapports avec l'Union européenne et qui est intéressée à la zone frontalière avec la Syrie. Et c'est elle qui, en fait, commande cette armée libre syrienne avec la volonté, une des hypothèses, c'est de créer une zone tampon, comme on dit, qui serait une zone libre dans laquelle la Turquie jouerait son rôle. N'oublions pas qu'on peut pousser aussi des cris d'orfraie en pensant à cette Turquie qui est présentée comme un modèle, alors que son aviation vient de tuer deux dizaines de Turcs, de Kurdes, et qu'elle mène une répression extrêmement sévère militaire contre les Kurdes. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est le caractère tout à fait difficile à gérer de nos rapports avec l'Arabie saoudite et le Qatar. Car sur le plan régional, ces deux États financièrement solides, quelle que soit leur situation dans la vie démocratique qu'ils mènent à leur population, ces deux États sont nos alliés contre la Syrie et contre l'Iran. Mais en même temps, ce sont eux qui financent aussi les courants les plus extrémistes de l'islam, le salafisme et les frères musulmans. C'est donc une situation très difficile à gérer. Là aussi, la diplomatie française a choisi, bien j'espère, en donnant tant d'importance au Qatar, même sur le plan sportif.
Michaela Wiegel.
Oui, juste un dernier point concernant l'Iran. La France, maintenant, est militairement aussi présente dans le Golfe Persique. C'est récent, mais ça nous amène souvent à l'oublier. Mais avec cette nouvelle base militaire, en fait, la France sera aux premières loges à à l'égal des États-Unis. Et c'est d'ailleurs curieux qu'on en parle si peu en France, parce que ça change quand même toute la pensée, ça devrait changer toute la pensée géostratégique française.
Une fois qu'on a disserté sur la question du Salmec ou du pas Salmec, il n'y a plus beaucoup de place au point de vue, il n'y a plus beaucoup de temps à la radio et à la télévision, il n'y a plus beaucoup de place dans les journaux. L'heure a sonné, les sujets sont importants, l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Jean-Louis Bourlange, dont la brièveté est légendaire, voulez-vous l'ouvrir?
Oui, je voudrais revenir sur la polémique dans laquelle d'ailleurs s'est illustré Max avec beaucoup de talent, la polémique sur Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc, Sarkozy, le Front National. Alors je me suis interrogé, je me suis dit, mais pourquoi effectivement Jeanne d'Arc est-elle le privilège, le monopole même, enfin tend-elle à devenir le monopole du Front National? Je rappelle que Jeanne d'Arc est fondamentalement, depuis Michelet, une héroïne de gauche, que non seulement Malraux, dans sa période gaulliste, a fait l'éloge de Jeanne d'Arc, on voit bien sur quoi, c'est le peuple, c'est l'anticléricalisme, puisque c'est des évêques qui la brûlent, et deuxièmement, c'est une figure, c'est, comme dit Malraux, une figure de victoire, la seule figure de victoire qui soit une figure de pitié. Mais je rappelle que même dans la période antérieure, Malraux cite Jeanne d'Arc dans son discours sur l'Éthiopie, je crois qu'il est en 35, il fait un discours sur l'Éthiopie et il stigmatise la droite, l'habitude de la droite qui est de célébrer toutes les Jeanne d'Arc qu'elle brûle avec le roi d'Angleterre et laisse brûler avec le roi de France. Donc le thème johannique est antérieur à la conversion gaulliste de Malraux. Et je pense qu'au bout du compte, ce qui sort de tout ça, c'est la Seconde Guerre mondiale. Si Jeanne d'Arc est devenue l'héroïne de l'extrême droite, c'est parce qu'elle n'était pas anti-allemande, mais anti-anglaise. Et à un moment de notre histoire, ça a servi. Il y a eu une bifurcation que le gaullisme a essayé de rétablir. Et je crois qu'il serait tout à fait nécessaire, effectivement, de rendre Jeanne d'Arc à la civilisation, au peuple français, à la miséricorde et à la pitié.
Je signale la parution aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins d'un Jeanne d'Arc Histoire et Dictionnaire qui est absolument remarquable. J'en dirai davantage demain dans ma chronique. Je trouve admirable de m'annoncer moi-même.
Ah oui, c'est
mais
bien ça.
C'est vraiment, c'est extrêmement complet. Et ça va du plus trivial et du plus amusant, notamment, je ne sais pas, sur les publicités qui se sont servies de Jeanne d'Arc pour vendre des choses dont je ne préfère parler que demain matin, à la filmographie sur Jeanne d'Arc, à la littérature, au position de Michelet, d'Anatole France, etc., etc. C'est donc, s'appelle Jeanne d'Arc, dictionnaire, histoire et dictionnaire. Thierry Pêche.
Écoutez-moi, plus je fais de radio, plus je m'exprime à la radio, plus je pense à ceux qui nous écoutent sans nous voir, et même à ceux qui écoutent sans voir. Alors ça m'a conduit à m'intéresser à un livre récemment paru, un livre de l'artiste plasticienne Sophie Kahl, qui s'appelle « Aveugle ». Paru aux éditions Actes Sud. C'est un livre assez étonnant. Elle est allée demander à des aveugles de naissance ce qu'était pour eux la beauté. Et elle a publié ensuite un portrait de ces personnes et à côté de ce portrait, une image tentant d'approcher ce qui est leur imaginaire de la beauté. Ça donne un livre absolument envoûtant qui est construit de part et d'autre d'un regard manquant et qui demande à ceux qui voient finalement de faire une partie du chemin vers ce que ceux qui ne voient pas voient précisément. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Alors si ce matin, pour exprimer des vœux, on pouvait faire un clin d'oreille comme d'autres font des clins d'œil à ceux qui nous écoutent sans nous voir, je pense que l'occasion ne serait pas perdue.
Merci Max Gallo.
Oui, je n'aurais pas osé parler
Sophie
de Jeanne d'Arc.
C'est chez quel éditeur?
Actes Sud.
Actes Sud, oui. Pardon.
Je ne voulais pas du tout parler de Jeanne d'Arc. Je dirais simplement que la situation de Jeanne d'Arc est un peu plus complexe que celle qu'a définie Jean-Louis Bourlange. Je me contenterai de cela. Et le dictionnaire, en revanche, est tout
c'est
à fait.
Trop peu.
Le dictionnaire.
Non, c'est vous connaissez l'histoire. Quand le bureau politique voulait célébrer je ne sais plus quel anniversaire de Pouchkine, on a demandé au bureau politique du Parti communiste de l'Union soviétique de réfléchir à la manière de le faire. Alors quelqu'un dit on va faire une statue de Pouchkine. Ça n'est pas assez, a dit l'autre. On va faire une statue de Staline lisant Pouchkine, a dit quelqu'un. Ça, c'est déjà pas mal. Mais un troisième a dit, j'ai encore mieux, nous allons faire une statue de Pouchkine lisant Staline. Donc voilà, on pourrait faire avec Sarkozy et Jeanne d'Arc la même...
Non, en tout cas, sur un point qu'on peut tout de suite noter, c'est que la résistance française, les résistants français, les communistes en particulier, pendant la guerre, se sont emparés de Jeanne d'Arc et l'ont célébrée.
Et les Anglais aussi.
Les Anglais aussi. Et...
je cherche des évêques. Oui. On cherche des évêques pour
Jean-Louis Bourlange qui me devance surtout a évoqué 1914 et j'ai apporté justement comme lecture parce que c'est une lecture qui m'a passionné un livre de Yves-Marie Adeline, une 1914, une tragédie européenne, essai historique. Vous savez que le grand débat dans l'entre-deux-guerres entre 1925 et 1960, ça a été finalement le débat des historiens, qui est responsable du déclenchement de la guerre. Et c'est tellement quelque chose de mystérieux qu'il y a eu des monceaux de livres qui ont été écrits là-dessus, et celui-ci reprend tous les thèmes, c'est-à-dire responsabilité allemande, responsabilité austro-hongroise, responsabilité russe, responsabilité française. C'est fascinant, et on voit comment les situations, quand il y a de la poudre, échappe, comme le disait Jean-Louis Bourlange, échappe au contrôle, et que finalement on se trouve embarqué dans une guerre générale que personne n'a voulu. Les acteurs les plus bellicistes voulaient au mieux une guerre localisée dans la région des Balkans.
Michaela Fickel.
Oui, décidément, Jeanne d'Arc, 2012, c'est l'année de Jeanne d'Arc. Donc moi aussi, j'étais très heureuse d'avoir trouvé un très bon livre qui reprend le sujet lancé par Jean-Louis Bourlange, écrit par un historien allemand, et de plus, c'est apparu en français sous le titre de Jeanne d'Arc à travers l'histoire chez Albin Michel. C'est Gerd Krumeich qui s'est justement intéressé à la différente perception de Jeanne d'Arc, et il a un grand chapitre est justement dédié à Michelet, à Quicherat et à Henri Martin. Alors ce qui sa thèse centrale, et ça je trouve quand même très intéressant, c'est que dès le départ, Jeanne d'Arc n'a pas été cette grande figure nationale qui unissait, mais dès le départ, elle a contribué à diviser dans sa perception les Français. Et c'est intéressant que ce phénomène, qu'on a un mythe national qui se perpétue, mais qui continue à diviser en même temps, cet historien allemand le voit comme une particularité française et explique pourquoi les mythes nationaux français ont mieux réussi à la France qu'en Allemagne.
Merci. Je vous rappelle donc que la semaine prochaine, nous serons en direct et en public au studio 105, le studio Charles Trenet de la Maison de la Radio, et que l'entrée est libre, même si la réservation est souhaitée selon des modalités que vous pourrez, regarder sur le site de l'émission. Vous avez rendez-vous maintenant avec Antoine Perrault pour Tire ta langue. Il a invité Olivier Picard et Pascal Vattier à propos de leur livre Parlez-vous le politique aux éditions Chifflet et compagnie. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Véronique Vella, préparée avec Mathilde Wagman et Thomas Jeanne Morando, avec aujourd'hui à la technique Bruno Gagnère-Fontani. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à 11h sur cette même chaîne.